France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie.
It's about 5 o'clock.
En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud. And your name is Jennings. Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches?
I guess.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
It's Anna.
Hey, did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back, with one in his stomach. Nobody important, really.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, Paul Vecchiali, franc-tireur enchanté. Bonsoir. Depuis plus de 50 ans, Paul Vecchiali réalise et produit une œuvre inclassable en toute indépendance. Auteur de films la plupart du temps sous-estimés et très souvent musicaux, tels que L'Étrangleur, Femme-Femme ou les mélodrames Corps à cœur et En haut des marches, Vecchiali revient sur le devant de la scène ces temps-ci et ce n'est que justice. D'abord parce que son dernier film Nuit Blanche sur la jetée est en salle depuis la semaine dernière. Ensuite parce que ses films les plus importants, réalisés dans les années 70-80, ressortent au cinéma ou en DVD pendant tout le mois de février. Il n'en fallait pas davantage pour que Cinéma Song vienne à la rencontre de Paul Vecchiali ce soir même. Avec lui, il sera question de cinéma, de musique, de Jacques Demy, de Roland Vincent, son compositeur de prédilection, de Gabriel Fauré, de Daniel Darieux, mais également de Pier Paolo Pasolini, d'Alida ou Vanessa Paradis. À la fin de cette émission, Charles-Pierre Vallière, quant à lui, reviendra dans sa chronique Essentielle BO sur Jupiter Ascending, le dernier film des Wachowski associés. Mais en attendant, mon actualité, c'est d'abord ceci.
G was quite different. The only one I had to and wanted to wait for. When he finally turned up and I opened the door, he didn't immediately enter. The way a cat doesn't when you let it in, as if once the door is open, it has all the time in the world. But he was more than a cat. He was like some kind of jaguar or leopard. He moved like them, which turned me on no end. When he laid down on my bed, it was clear to me that I should approach him and not the other way round. And when I did touch him, it was with some hesitation, as his reactions were unpredictable. He was in charge. That's the way it was.
Jean-Sébastien Bach, Charlotte Gainsbourg et Lars von Trier réunis pour ce début d'émission et pour cette courte séquence d'actualité ce soir, parce que l'entretien avec Paul Vecchiali va nous prendre pas mal de temps dans cette émission. Voilà, il s'agissait d'un extrait de Nymphomaniac volume 1, mais dans la version Director's Cut, c'est-à-dire la version longue, 1h30 d'image en plus, pour ce film donc controversé, sorti l'an dernier au cinéma et sorti donc depuis le 6 janvier en DVD, donc dans cette version complète, qui dure 5h30, près de 5h30. Et alors bon, Alors là, il était question de Bach, puisqu'effectivement, c'était un moment dans la première partie du film où Stellan Skarsgård, l'acteur principal du film, qu'on avait déjà vu dans Breaking the Waves à l'époque, et Charlotte Gainsbourg discutent d'une comparaison entre la polyphonie, selon Palestrina, et Bach, notamment et surtout Bach, maître de la polyphonie. On a entendu évidemment des extraits d'une œuvre pour orgue de Bach. Donc, de cette comparaison entre la polyphonie musicale et la polyphonie sexuelle, donc c'est assez inédit et relativement rare dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de la musique. Ça n'est qu'un des moments de ce film, alors passionnant, éprouvant, c'est une expérience limite à certains moments. Alors, qu'est-ce qui change entre la version cinéma et la version DVD? Il y a des scènes de sexe plus explicites, ça c'était évident puisque Lars von Trier l'avait indiqué lui-même, et on comprend probablement mieux là où il veut en venir. Disons que le récit est globalement plus cohérent, un certain nombre de choses sont plus développées, et il y a aussi des séquences qui sont parfois difficiles à supporter, en particulier une séquence dans la dernière partie du film que peut-être certaines âmes sensibles n'auront pas envie de regarder. C'est une séquence d'auto-avortement perpétrée par Charlotte Gainsbourg, que je ne vous conseille pas si vous avez l'âme sensible, tout simplement. Mais en dehors de cette séquence-là, qui était une séquence qui n'existait pas dans la première version du film, c'est un film que je considère néanmoins comme très passionnant sur la puissance du négatif contenu dans la sexualité et sur une espèce d'auto-portrait fantasmé de Lars von Trier sous la forme d'une femme, donc nymphomane, en l'occurrence donc Charlotte Gainsbourg, et dans la première partie Stacy Martin, et avec donc quelques digressions musicales comme celles que vous avez pu entendre. En tout cas, il faut se faire son opinion, ça peut peut-être pas se voir en une seule soirée, puis c'est peut-être pas un film non plus extrêmement, reposant, mais c'est une expérience que je vous engage à faire si vous en avez envie, évidemment. C'est Nymphomaniac Director's Cut aux éditions Potemkin, et ça reste quand même un des films les plus passionnants qu'on ait pu voir, je trouve, ces deux, trois dernières années. Ce soir, il va être question de Paul Vecchiali, donc ça va être extrêmement différent. On va y aller d'ailleurs tout de suite.
À 6 ans, j'ai décidé de faire du cinéma comme réalisateur, sans trop y croire. Mais chaque fois qu'on me posait la question, je répondais le choix du cinéma. Puis après, le soir dans mon lit, je me disais quelle blague, comment je vais arriver à, c'est pas possible. C'est un univers tellement loin, tellement imperméable, a priori. Et puis ma mère et mon père, surtout ma mère, voulaient ma photo avec le bicorne. Alors je suis passé pour Polytechnique pour leur faire plaisir, mais tout de suite après, j'ai fait du cinéma. Enfin d'abord, il y a eu la guerre d'Algérie, et puis je suis retourné comme instructeur à Polytechnique, et là j'ai fait mon premier film. Alors ce qui m'a aidé à passer, parce que c'était votre question, c'est pas tellement Henri Langlois, c'est plutôt Jean-Louis Chéret, c'est-à-dire le studio Parnasse, qui a une importance grandiose que les gens ne citent pas assez. Je veux dire, tout le monde est passé par là, hein, que ce soit Godard, que ce soit Truffaut, que ce soit Rivette, que ce soit Tavernier, que ce soit Patrick Brion, mais tout le monde est passé au Parnasse. Et les mardis du Parnasse, c'était quand même tellement festif, tellement formidable. Et là, bon, quand je suis rentré d'Algérie, que je suis tombé sur À bout de souffle et sur Lola, je me suis dit, il y a un créneau là, c'est pas possible, il faut le prendre. C'est comme ça que c'est arrivé.
La voix de Paul Vecchiali, donc, qui sera notre fil conducteur de ce soir et notre invité par la même occasion. Paul Vecchiali, 85 ans, est toujours très très vert, un cinéaste en pleine activité puisqu'il vient de faire sortir son dernier film Nuit blanche sur la jetée et qu'il a d'autres films en préparation, donc il n'est pas du tout l'intention d'arrêter sa carrière maintenant. Paul Vecchiali, comme je le disais au début de cette émission, va nous occuper toute cette soirée parce que, en dehors de la sortie de son dernier film, quatre films importants, quatre parmi ses plus importants, ressortent en salle la semaine prochaine, mercredi prochain. Il s'agit de L'étrangleur, Change pas de main, Femme-femme et Corps à cœur, qui sont quatre films réalisés par Paul Vecchiali dans les années 70. Et quatre autres films ressortiront à la fin du mois de février aux éditions La Traverse, coéditées par les éditions La Traverse et les éditions de l'Œil. Il s'agit de Les Ruses du Diable, premier long métrage de Paul Vecchiali, La Machine, C'est la vie, et également Change pas de main, qui fait partie des deux séries. Alors on va parler de tout ça avec Paul Vecchiali pendant toute cette soirée. Paul Vecchiali, qui est un cinéaste qui a pratiqué un peu tous les genres, et notamment plus particulièrement le film musical, en tout cas le film à tendance musicale. Il y a beaucoup de chansons et de musique dans ses films, et puis le mélodrame également. On en reparlera notamment à propos du magnifique Corps à cœur, où Gabriel Fauré, le Requiem de Gabriel Fauré, joue un rôle non négligeable. Écoutez, on va tout de suite donner la parole à Paul Vecchiali, qui va d'abord s'exprimer sur son dernier film, Nuit blanche sur la jetée, avant de revenir un peu sur sa découverte de la musique, de la chanson. La chanson, évidemment, et puis également son amour pour Jacques Demy. Place à Paul Vecchiali.
France Musique.
C'est un peu classique de finir par une chanson, enfin en tout cas chez moi, le générique de fin. Je trouve que c'est assez joli, puis c'est un petit rappel de la situation. Qui plus est, c'est quasiment la même musique que la danse, qui est un moment important du film. Le moment où la créature se révolte contre son créateur, en gros. Puisque si je me suis amusé à faire Nuit Blanche, c'est parce que j'ai vu coup sur coup le film de Visconti et Catherine Lanvert de Bresson, que j'ai adoré. Et comme je n'avais pas lu la nouvelle, je l'ai acheté. Or, dans le livre de poche, il y avait ça et le carnet du sous-sol. Et la lecture des deux en même temps m'a donné une lumière très 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 différente de celle de Visconti et de Bresson. Et je me suis cru autorisé à ce moment-là, parce que je ne vais pas marcher sur les brisées de ces gens-là, je me suis cru autorisé à faire ma propre lecture du roman. Ma grande satisfaction, c'est qu'on a été au Festival de Saint-Pétersbourg et un très très grand critique, Féru Dostoïevski, m'a dit « c'est la plus belle adaptation qu'on ait jamais vue ». Ça m'a fait plaisir, parce que j'étais loin de penser ça. Et pour en revenir à ça, dans mon optique à moi, on lui dit assez souvent, c'est comme un enfant qui jouerait avec sa poupée. En liant Les Carnets du sous-sol et Nuit Blanche, je me suis rendu compte que le personnage était masochiste. Et que par conséquent, on pouvait évoquer l'hypothèse que cette femme n'existe point. A fortiori, l'âme qu'elle attend. On est parti sur cette idée-là, et puis je me suis dit, il ne faut pas l'imposer au spectateur, il faut la suggérer, un peu comme les cailloux du petit poussé. Donc on voit des moments où on voit juste les mains d'Astrid, Adverbe, qui joue Natacha, et lui qui l'a fait rentrer dans le cadre. Donc il l'intègre dans son univers, vous voyez, des petits moments comme ça, qu'à un moment donné, il perd le son. Le son s'en va, et puis il est paniqué, puis il la rattrape. Etc, etc. En revanche, au moment de la danse, elle le fout carrément dehors, parce que c'est classique dans tous les contes, la créature se révolte contre le créateur et veut retrouver son indépendance qu'elle perd aussi vite, parce qu'elle est paumée.
Savez-vous danser, Fédor ?
Tout le monde sait danser. Tout le monde sauf moi.
Je vois. Danser à petits pas, sans trop y croire. Remuer les épaules dans une cadence approximative. Même vous, vous pourriez. Mais danser jusqu'à vouloir en mourir. Vous y arriveriez ?
Combien même ? Sur quelle musique ?
Là, Fédor. Là, de mon iPhone. Où j'ai fait brancher un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle.
Un amplificateur.
C'est le mot exact.
Mais où est-il ?
Magie ! Je vais vous apprendre à danser. Vraiment danser. Il suffirait que vous me suiviez. Que la lumière se fasse ! On ne danse pas dans le noir.
Thank you. Il y a donc une rencontre musicale également dans ce film qui est avec un duo de musiciens qui s'appelle Catherine Vincent, ce qui fait écho de manière curieuse avec votre musicien de prédilection, Roland Vincent, dont on reparlera après. Alors, qui sont Catherine Vincent, puisque c'est un couple, enfin en tout cas un duo, et Catherine Estrade et Vincent Komarek. Et pourquoi les avoir choisis? Comment vous les avez choisis pour ce film?
Alors, c'est un groupe qui fait pas mal de spectacles qui sont très agréables, et Vincent Komarek est en même temps mon assistant monteur. Ce qui fait que quand Roland Vincent m'a dit « Écoute, je ne sens pas du tout ce scénario, je ne me sens pas à l'aise », en plus il avait d'énormes problèmes personnels, j'ai dit à Vincent Komarek « Est-ce que vous pouvez faire la musique ?» Alors ils m'ont proposé d'abord la danse, et là j'ai énormément travaillé sur eux, ce que je ne fais jamais d'habitude. Et ils ont été formidables parce qu'ils acceptaient tout, quoi. Je disais « Là il faut des psychiatries, là il y en a, là il faut ci, là il faut là », et ils m'ont fait un truc comme je le voulais, quoi. Vraiment, c'est peut-être une musique sur commande, je dirais. En revanche, la chanson, j'avais donné quelques mots comme ça, par-ci, par-là. D'habitude, je les écris, mais là, j'avais pas le temps. Et ils m'ont envoyé la chanson, je l'ai trouvée très bien. C'est comme ça. Et ils vont faire le prochain, c'est l'amour.
Au soleil de ma mémoire, j'aperçois ta robe noire en haut des marches, en haut des marches, tu disparais comme un rêve déjà fait et va.
De manière générale, dans votre cinéma, la musique joue un rôle important. Et j'ai l'impression que vous-même, vous avez un rapport personnel assez fort à la musique. Ça date de quand? Ça date de quoi? De votre enfance, de votre jeunesse? Je ne sais pas si vous pouviez raconter un peu votre, s'il y a une découverte, s'il y a des moments de découverte de la musique, et de quelle musique s'agissait-il dans l'occurrence?
Je suis passé assez rapidement de Frey à la Bach. Je fais un gros raccourci, mais dans mon enfance, c'était Frey, c'était Damien, c'était Sissi Solidor, c'était toutes ces grandes cantatrices. Parce que c'est plus que des petites chanteuses, ce sont des femmes qui ont une vérité, une émotion, une force dans le phrasé, enfin, très différent d'ailleurs de l'une à l'autre. Et puis après, petit à petit, je me suis initié à la musique classique, un peu par hasard, je dois dire, parce que mes parents n'étaient pas férus de musique. J'ai rencontré la musique, ça. D'abord par l'opéra, je dois dire, parce que ma mère aimait beaucoup l'opéra. Donc elle m'emmenait à l'opéra, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Les Pêcheurs de Perles dans Nuit Blanche. Et ma mère chantait ça tout le temps en faisant sa lessive, comme on dit dans le film. Je lui ai prêté quelques-unes de mes trucs d'enfance au personnage. Et puis rapidement, quand j'ai rencontré Bach, là ça a été le coup de foudre. Quoi. Plus que Mozart, que j'aime beaucoup bien sûr, et puis après ça a été Schubert, après ça a été Schumann, enfin ça a été presque tout. Y compris Shostakovich, y compris le jazz, mais le jazz est venu très tard, hein, quand j'étais à Polytechnique. J'avais un copain qui était féru de jazz, qui m'a fait écouter les trucs. Enfin, je suis plus classique.
Est-ce que votre amour du cinéma français des années 30-40 notamment, est-ce que ça a aussi participé d'un certain rapport à la musique, en tout cas au moins d'un rapport à la chanson, puisqu'après tout, Daniel Darieux, par exemple, que vous admirez beaucoup et que vous avez fait tourner, elle était aussi chanteuse. Enfin, c'est elle qui chante, y compris dans les films de Jacques Demy où la plupart des acteurs sont doublés. Elle chante vraiment.
Dans Une chambre en ville, il n'y a que Daniel et Jean-Louis Roland qui chantent en direct. Peut-être Fabienne Guyon aussi, ils sont trois. Moi j'ai eu un choc quand j'étais enfant et que j'ai vu Cœur de Lila d'Anatole Litvak, qui avait fait Meyerling déjà, donc je m'étais précipité voir Cœur de Lila. Et il y a un moment où Gabin rentre dans une espèce de bar, comme ça, où il voit sa maîtresse, qui est jouée par Marcel Romet, qu'on appelait la Marlène Dietrich française, avec André Luguet, qui est un policier camouflé, enfin, scénario classique. Et il a une espèce de colère, il commande une bière, il se retourne, et tout son visage est chargé d'une espèce de colère qui va exploser, et il chante « C'est la môme caoutchouc ». Et là, j'ai compris que ce qui était intéressant, c'était garder, de faire suivre le mot par la chanson, de façon à ce que le mot, enfin, le mot qui traduit l'état d'esprit du personnage, reste inclus, comme ça, derrière la chanson. Ce qui se passe dans Femme Femme, avec Hélène Surgère, qui vient de passer un savon à Noël Simsolo, et dans la foulée, elle chante Les Hommes en Somme, qui n'a rien à voir. Mais dans Les Hommes en Somme, il y a cette espèce de colère qui est restée, qui va se dissoudre petit à petit dans la chanson. Et ça, je l'ai appris vraiment avec Nathalie Dock.
Geneviève, ma petite Geneviève,
Guy, je t'aime. Tu sens l'essence.
C'est un parfum comme un autre.
Guy, je t'aime, oh Guy, je t'aime. Un client, je me sauve à 8 heures devant le théâtre. J'ai pensé à toi toute la journée. Si tu veux mon amour, après nous irons danser.
Si tu veux.
Si tu veux.
Vous désirez
un parapluie.
Un parapluie. Où étais-tu?
Là, en face.
Êtes-vous fixé sur le genre d'article qui vous intéresse?
Un parapluie noir.
Geneviève, montre les parapluies à monsieur.
Article que je connais dans les cahiers du cinéma, c'était sur les parapluies de Cherbourg, me semble-t-il, il y a un petit moment déjà, et il y a une cinquantaine d'années. Et donc Demi a compté pour vous, on le sait, vous avez eu des liens avec lui. Est-ce que ça a compté aussi, et je dirais principalement, musicalement? Parce que bon, évidemment, les parapluies de Cherbourg, c'est difficile d'imaginer le film sans cette partition-là, oui, puisque bon, voilà, le film a été conçu comme tel. Quel rapport vous avez avec cet aspect-là de Demi?
Demi aimait beaucoup la para, et il rêvait, son grand rêve, on le sait, tout le monde le sait, c'était de travailler à Hollywood. Et à cause de l'échec de Model Shop, il y a renoncé en partie, quoi. Moi, je peux pas. Enfin, j'ai un projet d'opéra bouffe en playback entier, donc ça peut se faire aussi. Mais je préfère le direct. Je préfère que le playback soit seulement en musique. Donc on s'amusait beaucoup à se chamailler là-dessus, parce qu'il me disait: ah, c'est curieux, quand le livreur chante dans Femme Femme, on est tout surpris qu'il chante juste. Oui, parce que c'est un personnage qui est un peu hors de la situation, donc on peut le sortir. En revanche, quand Hélène et Sonia chantent, c'est plutôt des diseuses, quoi. Ce ne sont pas des vraies chanteuses, mais moi je suis plus ému par ça que par le playback. Le playback me fait sortir du film, pas quand c'est les parapluies de Cherbourg, parce que c'est un principe qu'on attrape dès le début. C'est pas un problème. Ou dans Une chambre en ville, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Enfin, donc ça ne me gêne pas. Mais dans d'autres films de Jacques, la chanson, je la trouve trop polissée, quoi. Elle me coupe du décor. Quand Surgère chante, ou quand Sonia chante dans Femme Femme, elles sont dans le décor vit avec elles. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu la différence, quoi. Quand on a fait Change pas de main avec Noël Simsolo, on avait d'abord écrit une comédie musicale qui s'appelait Pornographia. et qu'on n'a pas pu monter. Et Jean-François Davy a accepté de produire Change pas de main, donc on ne s'est plus posé la question. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tente beaucoup, mais c'est cher. Hein. Moi, je suis un cinéaste bon marché. C'est un peu plus cher. J'ai un projet qui s'appelle Le jour du Seigneur, pour lequel j'ai contacté Mathieu Amalric, qui est tout à fait d'accord pour le faire. Évidemment, il chantera pas, il sera en playback. Mais ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que ça se passe en un jour. C'est un dimanche, c'est le jour de la libération de Ramatuelle. Et là, bon, je ne peux pas donner des noms de comédiennes parce que ce n'est pas encore sûr. Mais on va essayer d'avoir un casting un peu plus important que d'habitude pour trouver l'argent nécessaire. Oh, ça ferait beaucoup rire Jacques Audiard et les autres si je disais que c'est un film de 700 000 euros. Mais pour moi, c'est énorme. J'ai des budgets de 20 000 euros, de 40 000 euros. Bon, Nuit Blanche a coûté un tout petit peu plus cher parce que j'ai créé ma propre maison de production, donc j'ai déclaré les gens au niveau pour qu'ils aient leur chômage, pour etc. Enfin, je me suis occupé d'eux. Donc ça a été un peu plus cher, mais ça n'a pas dépassé 150 000 euros. Là, il est question de 700 000. Rien que la musique, il faut compter 250 000 euros. Parce qu'on va aller à Sofia, on va faire une orchestration, il faut les copies. Enfin bon, tout le monde connaît ça, je veux dire, donc c'est beaucoup plus cher.
Que je connais la vie, je ne comprends pas qu'on s'ennuie. Il y a la mort qui nous attend. Je vous en prie, profitons-en. Je peux séduire n'importe qui, à condition que j'en ai envie. Faut pas vous faire du mauvais sang. Je n'en veux pas à votre argent.
C'est toujours fragile. Vous aimez les fleurs? Pendant, vous avez souri. Moi, j'aime bien le chant d'Aïlili. Il y a toujours des fleurs sur la table. C'est comme qui dirait un signe de reconnaissance. Vous m'avez compris ? Non ? Si.
La bien nommée chanteuse Mon Amour, qui chantait justement Je m'appelle Mon Amour, dans le film Change pas de main de Paul Vecchiali, c'était en 1975, et c'est une sorte de film pornographique, mais pas seulement pornographique, qui mélange tous les genres, en fait, dans son creuset du porno, du politique, du polar, tout ça, voilà, sous la caméra de Paul Vecchiali, qui est notre invité ce soir et qu'on a pu entendre parler de différents sujets, son dernier film notamment Nuit Blanche sur la Jetée, mais également Jacques Demy et son rapport à Jacques Demy, à la musique et à la chanson. On a écouté justement un extrait des Parapluies de Cherbourg devant le magasin avec les voix de Daniel Licari, José Bartel et Christiane Legrand, qui étaient évidemment incarnés à l'écran par Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo et Anne Vernon. On a écouté également Daniel Darieux qui chantait la chanson du film En haut des marches, qui s'appelle justement En haut des marches, paroles de Paul Vecchiali, musique de Roland Vincent, qui était également l'auteur de la musique de la chanson de Change pas de main. Roland Vincent, le compositeur de prédilection de Paul Vecchiali, sur lequel il va revenir très prochainement. Et puis, au début de cette séquence, un extrait du film Nuit Blanche sur la Jetée, donc le dernier long métrage de Paul Vecchiali, en salle en ce moment. Grosse actualité, donc, je le disais, pour Paul Vecchiali. On peut aussi, si on veut retrouver l'univers de Paul Vecchiali sous la forme de livre, on peut aussi à la fois lire le livre de Mathieu Orléans qui s'appelle Paul Vecchiali, La Maison Cinéma, qui est un livre à la fois de photos et en même temps de textes fragmentaires tout à fait passionnants, qui permet vraiment de rentrer dans l'univers très particulier de Paul Vecchiali, l'univers du mélange des genres, l'univers voilà, qui mélange le cinéma des années 30 et le cinéma moderne. Et puis, justement, à propos du cinéma français des années 30, Paul Vecchiali a publié il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, aux éditions de L'Œil, une encyclopédie, le cinéaste français des années 30 et leur œuvre autour, justement, des cinéastes français, disons, qui ont commencé leur œuvre ou qui ont fait des films dans les années 30, et parfois ça va beaucoup plus loin. Donc on y retrouve évidemment Max Ophüls, Jean Renoir, mais Sacha Guitry et beaucoup d'autres, mais également des cinéastes beaucoup moins connus, et puis beaucoup de place justement à la chanson, puisque la chanson jouait un rôle important à cette époque-là. Paul Vecchiali, donc on va le retrouver tout de suite, on va retrouver son univers. Il faut aussi dire que Paul Vecchiali est un cinéaste qui est admiré par des jeunes cinéastes, par exemple comme Serge Bozon ou Axel Repère, qui vouent presque un culte à Paul Vecchiali, qui fut un personnage, enfin qui est toujours, mais qui fut un personnage aussi important dans les années 80 parce qu'il avait fondé une maison de production qui s'appelait Diagonale et qu'il a produit un certain nombre d'autres cinéastes comme Jean-Claude Guillet, Gérard Frocouta, Jacques Davila ou Jean-Claude Biette, qui fut d'ailleurs producteur lui-même sur cette chaîne France Musique. Alors on va retrouver tout de suite Paul Vecchiali d'abord avec la musique de Roland Vincent pour son film L'Étrangleur, étonnant film de 1970 avec Jacques Perrin et Julien Guillaumard, qui flirte du coup lui avec le thriller, mais d'une manière très personnelle, Roland Vincent, puis ensuite Paul Vecchiali.
Thank you.
survient un peu, donc bah, vous filme chronologiquement, on pourrait dire, L'Étrangleur. Donc moi j'ai découvert à l'occasion donc de la préparation de cette interview et qui va ressortir donc très bientôt, la semaine prochaine. Il y a la rencontre avec Roland Vincent à ce moment-là, pour ce film-là, puisque pour le premier film que vous aviez fait, Les Rues du Diable, c'était pas Roland Vincent. Alors ça, je n'ai pas vu le film, donc vous allez peut-être pouvoir m'en dire un mot. Et comment ça s'est fait, cette rencontre avec Roland Vincent, qui est assez connu, et très connu même pour les chansons de Michel Delpech. En plus, à cette époque-là, il était déjà très très en vogue, puisque c'était déjà les succès de Delpech étaient déjà en pleine actualité.
Non, Roland Vincent a été un musicien, un compositeur à succès, parce qu'il a fait le premier disque de Céline Dion, et puis il a travaillé pour Girardot, il a travaillé pour plein de gens. Mais alors ça s'est passé de façon très curieuse, parce que ma première idée c'était Léo Ferré. Et Léo Ferré a lu le scénario, il m'a dit, alors, dès demain je vous dis oui, c'est sûr, venez me voir, etc. Je l'ai vu deux ou trois fois, et chaque fois son secrétaire me disait, il n'aura jamais le temps de le faire. Et moi je voulais vraiment l'avoir. Et puis, il y avait une chanson. Et j'hésitais entre Corinne Marchand et Jacqueline Dano. J'ai téléphoné à Corinne, ça ne répondait pas. J'ai téléphoné à Jacqueline Dano, ça a répondu. Elle m'a donné rendez-vous au bar des artistes, je me rappelle. Et je lui ai dit la vérité. J'ai dit, voilà, j'hésite entre Corinne. Et elle me dit, mais elle n'est pas un peu grande, Corinne, pour Perrin? Et ça m'a tellement fait rire que j'ai dit, bon, ok, on arrête là. C'est vous qui le faites. Elle m'a dit, qui fait la musique? J'ai dit, Léo Ferré. Elle m'a dit, non, vous ne l'aurez jamais. Et ça m'a confirmé. Elle m'a dit, moi, je peux vous présenter quelqu'un qui rêve de faire de la musique de film et qui est un très, très grand mélodiste. Roland Vincent. Et j'ai rencontré Roland Vincent. Et la première rencontre avec Roland, ça a été, ne me parlez pas de votre scénario. Parlez-moi de vous, si vous voulez, mais parlez-moi de n'importe quoi. Et je lui ai parlé de la nuit. Et il m'a dit, ok, bon, vous êtes libre demain soir? Il m'a dit oui. Je lui ai dit oui. Et il m'a joué le thème de la nuit, le lendemain. Et je me suis dit, comment il fait pour être dans ma tête? Puis après, il m'a dit, c'est pas tout. Et sa femme a chanté la chanson, Je me ferai marin, pour Jacqueline Dano. J'ai dit, là, c'est fini, je ne le quitte plus. Voilà la rencontre. Et il y a une osmose entre nous absolument extraordinaire. De plus, je n'ai pas encore dit, mais j'ai toujours refusé de faire un film sans avoir la musique avant. Et je me souviens d'un directeur de production pour la télévision qui m'a dit, c'est hors de question. Je lui ai dit, bon, vous êtes en train de me proposer ceci. Depardieu n'est pas libre, mais il a signé. Vous faites le film et puis on le mettra en incruste après. Voilà ce que vous me proposez. Et là, il a craqué. Il a dit, ah oui, évidemment, là, je peux pas accepter ça. Et j'ai toujours eu, même à la télévision, la musique avant. Et quand j'avais dit ça à Louis Bessière, qui a fait la musique de Les Ruses du Diable, il m'a dit, c'est formidable, moi j'ai jamais fait un truc comme ça, c'est très bien. Il m'a convoqué, il m'a joué le thème des Cousettes, vous connaissez pas le film, mais c'est le générique de début. Il m'a dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de paroles. Puis là-dessus, il est parti au téléphone, et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des paroles sur cette musique. Nous, les Cousettes. Et on a appelé les Parisiennes, qui ont dit, nous, on ne sert pas la soupe à une débutante. Alors il a appelé Alice Donna, qui a dit oui tout de suite. Ensuite, dans la foulée, il m'a dit, mais c'est formidable, il faut en écrire d'autres. J'ai écrit deux autres chansons. On a appelé Cora Vauquer, qui a accepté tout de suite de les chanter. Voilà comment a débuté ma carrière de parolier. Et en même temps, cette idée qu'il fallait avoir la musique avant, quoi.
Auprès de toi, j'oublie le temps qui passe. J'oublie mes lendemains chagrins. Auprès de toi, l'amour est à sa place. L'amour à portée de ma main. Auprès de toi, c'est merveilleux de vivre, de découvrir un nouvel univers. Auprès de toi, mes rêves se délivrent, la nuit, le jour sortent de leur rivet. Mes petits matins solitaires, mes aubes froides sans soleil, les brusques retours sur la terre cœur panique de mes réveils. Et si qui veut mes feuilles, sans que moi je le veuille, c'est que j'attends quand même l'amour auprès de toi. J'oublie le temps maussade, j'oublie que le bonheur est bref. Mais loin de toi, je ne pourrai plus vivre ni supporter d'être ce que je suis.
À partir du moment où vous avez la musique avant, ça veut dire que vous la diffusez sur le plateau si besoin est, ou comment vous l'organisez ensuite dans vos propres films? Bon, il y a les moments chantés qui effectivement eux existent, préexistent j'imagine, mais il y a d'autres moments, notamment par exemple dans L'Étrangleur ou dans d'autres films, où la musique joue un rôle, on va dire dramatique ou expressif, comme on veut. Vous savez déjà à l'avance ce que vous allez faire, ou c'est plus intuitif que ça?
Je fais un listing de musique pour Roland. Oui, un listing relativement précis, je veux dire, avec l'endroit où ça va se situer dans le scénario, et un minutage approximatif, mais qui ne varie pas de 5-6 secondes. Et lui, il se plie à ça, vraiment. Parce que ce que je souhaite, moi, c'est que, je ne sais pas, quand j'ai un décorateur, il fait le décor. Bon, d'accord, je parle avec lui, mais c'est lui qui en est le patron. Et je voulais ça pour la musique aussi, parce que pour moi, la musique, c'est en même temps un décor. C'est tout cet ensemble-là qui se mélange et qui fait après un film, si possible, hétérogène, parce que j'adore l'hétérogénéité, si possible, en même temps, qui a ce que j'appelle une écriture, c'est-à-dire qu'une
espèce
de somme, et non pas une addition de plans. Et pour moi, c'était vital que quelqu'un me donne son point de vue sur le scénario. Et c'était le cas avec Roland. Alors vous me posez la question, alors là c'est pas Roland, c'est Forêt, mais on a usé je sais pas combien de disques sur le tournage de Corps à Cœur. Surgère savait pratiquement par cœur tout, et la Pavane et le Requiem. Il arrive très souvent qu'on mette la musique sur le plateau, quand elle n'est pas en playback, bien entendu. Non, c'est pour moi vital. J'ai une anecdote à ce sujet. Je me rappelle dans un film télévision, je ne sais plus lequel, mes assistantes monteuses, puisque c'est moi qui monte toujours, même à la télé, j'avais obtenu ça. Je disais, mets la première note sur ce photogramme, et ça roulait. Il me dit, mais il a vu le film, Roland? Non, moi j'ai entendu la musique. Il y a, je répète, parce que c'est le mot exact, une osmose entre nous, vraiment.
Thank you. L'autre jour que vous avez parlé musique? Je ne sais pas.
Seulement pour la musique?
Oui. Non. Cette façon que vous avez d'en parler, ce contraste.
Je ne sais pas parler. Je préfère.
Je m'en doute. Mais justement, j'ai toujours préféré Debussy à Fauré, avec une espèce de certitude. Vous savez, inébranlable.
Ne trouvez pas que ce côté fonctionnel chez
Fauré... C'est tout à fait ça.
Chez Debussy, la forme s'invente d'elle-même. Je veux dire, il n'y a pas de forme préalable. Quand il compose, il va à l'aventure. Il recherche surtout le
jamais entendu.
Jamais entendu. C'est le premier à s'être libéré des formes.
Vous êtes gay. C'est réconfortant. Moquez-vous encore. Je suis si sûre de ce que je dois penser.
Fauré va droit devant lui.
Et c'est ça que vous pensez de Fauré?
Il respecte les thèmes. Il est plus près des choses, il va plus profond.
Peut-être, après tout. Et vous allez rire? Je croyais au langage de classe.
Revenir à Corps à Cœur et Fauré, qui joue un rôle décisif, c'est le moins qu'on puisse dire dans le film, puisque dès la première séquence, le ton est donné, puisque les personnages se rencontrent à l'occasion d'un concert donc du Requiem de Fauré. D'où c'est venu l'idée de Fauré? En plus, il y a quand même quelques conversations autour de la musique. Et en plus, la musique joue quand même un rôle, on va dire, de marqueur de classe, puisque vous avez pris, j'imagine, je ne sais pas si c'est un malin plaisir, mais enfin, en tout cas, un certain plaisir à faire d'un garagiste un mélomane relativement averti, même si ce n'est pas un technicien, on va dire. Donc, comment ça s'est construit autour de Fauré, cette histoire de Corps à Cœur?
Petite parenthèse avant, c'est que j'ai toujours été agacé par le sectarisme, comme ça. La caractérisation des gens, parce qu'il est ceci, il ne peut pas être cela, ce n'est pas vrai. Bon, passons là-dessus. Moi, j'ai eu l'idée d'un... La première idée de Corps à Cœur, ça a été la scène « Je vous ai invité à dîner, mais pas à coucher ». J'ai écrit cette scène, et puis une amie à moi, que j'avais rencontrée au studio Parnasse, Françoise Doucet, qui est un peu mon coach, m'a dit « Si tu ne fais pas ce film, je te tue ». Et derrière ça, je ne sais pas pourquoi, est venue directement la scène de la fin. Et je me suis rendu compte que ce film, c'était la communication entre les vivants et les morts. Ça, c'est le Requiem de Fauré. Alors, j'ai racheté un disque, et puis je l'ai écouté, et j'ai écrit tout le scénario avec le disque à côté de moi. C'était fondamental. Ensuite, j'ai pensé que le Requiem était plus lié à Pierrot, donc à Nicolas Silberg, dans le film, qu'à Surgère. Et je me suis dit, je vais lui opposer la pavane, qui est plutôt représentatif de ce qu'est le personnage de Surgère. Et d'ailleurs, c'est sur la pavane qu'elle danse son collet maillard au milieu du film. Une seule prise. Ouais, elle est très douée pour la danse, Hélène. Donc voilà un peu ce qui m'a lié à Fauré. Et après, c'était pour moi indissociable du film, quoi. Et là où je dois faire un hommage à Roland Vincent, qui fait un peu de musiquette dans le film, c'est qu'il est complètement plat. Il n'a pas essayé de prendre des thèmes et de les rappeler. Il m'a dit, écoute, je crois qu'en face d'un monument comme ça, il faut que je disparaisse. Et il m'a fait une musiquette comme ça, qui est très très jolie, mais qui est presque transparente. Thank you.
Vincent, bon, vous en avez déjà un peu parlé, mais la nuit à propos de l'étrangleur, mais je sais pas, mettons en haut des marches où il y a un certain lyrisme dans la musique et où quand même la musique joue un rôle non négligeable, enfin encore une fois dans tous vos films elle joue un rôle important, donc qu'est-ce que vous lui dites, quel genre de choses vous vous dites à propos de, alors je sais pas, tel ou tel film?
Rien, je lui donne un listing comme je répète et puis je lui dis vas-y. Fume est à toi et puis fais-en ce que tu en veux. Voilà. C'est comme ça que ça se passe parce qu'il n'y a pas de. Il ne m'est pas arrivé une seule fois de lui dire ça non. Pas une seule fois parce que je vous répète, il est dans ma tête. Quoi. C'est clair. Il est dans ma tête. Et quand il n'y est pas, il ne fait pas le film. C'est comme c'est arrivé là pour Nuit Blanche et comme ça va arriver pour C'est l'amour. Il a évidemment le listing. Quand il voit qu'il y a du Bach, il réfléchit. Il va dans aux démarches, il y a du Bach. Et il fait attention à ça, quoi. Il fait attention de ne pas démarquer. Au contraire, il fait attention à se démarquer de Bach. Mais ça, il faudra peut-être lui demander à lui, quoi. Parce que... Mais non, ça me paraîtrait presque indécent de lui donner des idées. Alors que... Avec Catherine Estrade et Vincent Comaré, j'ai beaucoup travaillé sur la musique parce qu'on ne se connaissait pas sur ce plan-là et il n'y avait pas le lien qu'on a avec Roland. Moi, ce qui m'a frappé, je vous répète, chez Roland, c'est la première musique qu'il me fait, le thème de la nuit de l'étrangleur. Je me suis dit, c'est pas possible, enfin, c'est vraiment incroyable. Et quand on a fait Femme-Femme, on est allé avec Sim Solo lire à deux voix le scénario, Roland. Il s'appelait Femme, en hommage à Cucor. Et il a écouté avec sa femme, comme ça, très réfléchi, puis tout d'un coup, il me dit « Appelez-le femme-femme ». Il va au piano, il fait « Femme-femme, babalalalala ». Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, on n'a rien à dire, quoi. On a le film, tout de suite, là, sous les yeux et dans la tête. C'est assez étonnant, une rencontre comme ça, parce que bon, c'est vrai qu'il y a Le Grand Demi, mais Le Grand Demi, moi, je trouve que Colombier, c'est plus fort. Je trouve que dans Chambre en ville, il va plus loin, Colombier. Mais bon, ça n'empêche pas que la musique de Michel Legrand est absolument sublime. Hein. C'est pas un reproche, mais... Il a failli prendre Roland. C'était à deux doigts. Parce qu'on avait quand même des liens très, 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 très forts. Hein. On passait son temps à s'appeler quand on ne se voyait pas. On parlait cinéma, bien sûr. On avait dit... C'est lui qui l'avait dit. Il a dit, je crois qu'on est les deux seuls à aimer à la fois Bresson et Darieux.
Qui est là?
C'est moi, votre gendre.
Mais vous êtes fou, mon ami. Vous avez vu l'heure?
Est-elle dans sa chambre?
De quoi? De qui parlez-vous?
Votre fille.
Pourquoi?
Elle a disparu. Elle est partie claquant la porte. Comme elle n'est pas rentrée, je me suis inquiété. Puis j'ai pensé qu'elle était là. Après un malentendu, souvent les filles retournent chez leur mère.
Oh, Edith n'est pas dans celle-là.
Edith, Edith, ma petite Edith. Mais où peut-elle être? Et puis c'est ma faute.
Oui, ça, j'en suis sûre.
Ça va, je vous en prie.
Que s'est-il passé au juste?
Oh, rien, trois fois rien. Vous la connaissez, vous savez comme elle est. On parlait gentiment, et puis elle s'est fâchée.
Elle n'a pas tous les torts, d'après ce que je sais.
Qu'avez-vous l'air d'insinuer?
Edith m'a dit certaines choses.
Elle vient maintenant pleurer dans votre giron.
Elle est venue se confier à moi parce qu'elle était malheureuse.
Que vous a-t-elle dit?
Elle m'a avoué que vous n'étiez pas toujours, comment dire, à la hauteur de vos ambitions dans vos rapports sexuels.
Que voulez-vous que j'y fasse?
Je ne sais pas. Consultez un docteur. Il doit bien exister un remède. Edith est honnête. Elle vous reviendra.
Honnête, je l'ai surprise ce soir, la main dans la caisse. Midi, elle se baladait à poil sous son manteau. Elle a aussi
osé me dire qu'elle n'avait rien à se mettre.
Ça, mon cher Edmond, vous l'avez bien voulu.
Où a-t-elle bien pu aller? Qu'est-ce que je vais devenir sans elle?
Il ne fallait pas la laisser sans argent.
Et si elle s'était suicidée?
Vous la connaissez mal.
Si je prévenais la police?
La police a mieux à faire avec les grévistes.
Et dites, ma petite fille, oh mais qu'est-ce que j'ai fait?
Vous n'allez pas passer la nuit à vous lamenter ici. Rentrez donc chez vous et prenez une douche. D'ailleurs, je pense qu'à cette heure-ci, elle vous attend sagement.
Quelle garce!
Allons, Edmond, maîtrisez-vous. J'ai toujours eu horreur de la vulgarité. Et je ne vous permettrai pas d'insulter ma fille devant moi. Je ne dis pas qu'elle soit parfaite, loin de là, mais enfin.
Vous croyez qu'elle a un amant?
Mais je n'ai jamais dit cela, vous rêvez.
Quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qu'elle a connu avant moi, quelqu'un qu'elle a retrouvé. Et dire que je m'inquiétais, et dire que j'étais toujours prêt.
Je reviens à Change pas de main. J'ai été frappé, entre autres choses, par l'usage de la musique sur les scènes porno ou érotiques, qui est souvent très surprenant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en ce domaine, où c'est quand même un peu une espèce de musique, musiquette comme ça, qui n'a pas beaucoup d'intérêt ni de sens. Alors que là, tout d'un coup, ça crée un vrai contrepoint. Et on voit que ça amène à regarder différemment des séquences qu'on pourrait supposer un peu attendues.
Oui, la fameuse séquence où Bouvet se promène avec ses ciseaux et qui va finir par tuer Huguette Datané, et après elle a sauté d'ailleurs, hein, puisque c'est un nécrophile et un machin. Bon. Là, j'ai dit à Morland, il faut mettre le paquet, là, hein, il faut vraiment avoir quelque chose de dense, de très fort. Et puis. Ouais, il m'a fait ça, quoi. C'était très bien. Vous disiez porno politique, on appelait ça un PPP, nous. Porno politique policier. Oui, porno politique policier. Et en même temps, ce qui est assez étrange, c'est que c'est les initiales de Pasolini, qui venait de voir Femme, qui avait fait tout le baroud qu'on sait, et qui n'a hélas pas vu Change pas de main, mais qui se tenait au courant presque jour par jour. Il m'appelait, où tu en es, etc. Et peut-être vous ne savez pas, mais on devait faire un film ensemble, Pasolini et moi. On devait faire Le Marquis de Sade. Il m'a dit, j'écris, tu regardes après si ça te convient, je m'occupe de tout et je te regarde. Je te regarde tourner, ce qui était assez impressionnant, quoi. Et on est allé en octobre, c'est-à-dire 5 jours avant sa mort, aux artistes associés, pour signer le contrat. Et le directeur m'a regardé un peu de haut, comme ça. Et pourquoi vous avez envie de faire ce film? Et je lui ai dit, bah parce que ça m'amuse de voir Jeanne d'Arc comme personnage secondaire. Et là, il a éclaté de rire, et puis il m'a dit, ok. Et puis malheureusement, que le film ne soit pas fait, c'est embêtant, mais le plus grave, c'est quand même qu'il ait disparu.
Je rappellerai peut-être, juste parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, que c'est en voyant Femme que Pier Paolo Pasolini a choisi Hélène Surgère et Sonia Savianche pour les intégrer dans Salou. Donc le dernier film du coup.
Il a choisi Hélène Surgère, je le dis, parce que maintenant c'est prescription, à la place de Jeanne Moreau, qui avait été pressentie. Et il m'a dit, je ne peux pas ne pas prendre Sonia si je prends Hélène. Et il a donc écrit, réécrit, le personnage de la pianiste muette qu'il a donné à Sonia.
Triche l'orage, triche
perdus. Triste l'orage, triste leurs yeux. Le vent, la pluie, les ratatines. La 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 la. Et leurs œillades assassines. La 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 la. Pour peu qu'elles plaisent à un passant. Triche l'orage, triche leur chant. Retrouve leur geste d'enfant. Triste l'orage, triste leur chant. Et comme trois gouttes de sang. Et comme trois gouttes de sang. S'en va l'orage éperdument. S'en va l'orage éperdument. S'en va l'orage éperdument.
Un extrait du film Femme Femme de Paul Vecchiali, 1974-75, un des films les plus importants de Vecchiali, donc avec Hélène Surgère, dont on entendait la voix à l'instant, qui chantait de manière assez fragile, mais c'était le concept, on pourrait dire, de Paul Vecchiali dans ce film. Et également Sonia Saviange, un duo donc d'actrices vieillissantes qui sont un peu enfermées dans leur appartement, avec beaucoup de plans sur des actrices des années 30 d'ailleurs, qui viennent sans cesse ponctuer les échanges entre ces deux femmes. Femme Femme que Pier Paolo Pasolini, donc comme le rappelait Paul Vecchiali, avait adoré à l'époque. Il a engagé donc ces deux actrices pour son dernier film, Salaud ou les 120 journées de Sodome. Paul Vecchiali, dont on a entendu la voix, bien entendu, tout au long de cette longue séquence. On a également écouté un extrait d'Une chambre en ville avec la voix de Daniel Darieux, bien sûr, et celle de Georges Blanès qui incarnait, enfin qui était la voix de Michel Piccoli. Un extrait de La pavane de Forêt, bien sûr, dans la version qu'utilise Paul Vecchiali dans Corps à cœur, celle de Daniel Barenboim, dirigeant l'Orchestre de Paris. Également un extrait du Le Sanctus du Requiem de Forêt avec Dietrich Fischer-Dieskau et Victoria Los Angeles et André Cluytens dirigeant l'orchestre du Conservatoire de Paris. C'est également la version qu'utilise donc Paul Vecchiali dans ce magnifique mélodrame qui est Corps à cœur. La voix de Cora Vauquer dans le premier long métrage de Paul Vecchiali qui va ressortir donc en DVD à la fin du mois de février avec C'est la vie, la machine et change pas de main, donc aux éditions La Traverse et les éditions de l'Œil, donc dans Les Ruses du Diable, avec une musique de Louis Bessières et des paroles de Paul Vecchiali, comme la plupart des chansons donc, de ses films. Et puis, en début de cette séquence, on avait écouté la musique de Roland Vincent pour L'Étrangleur, 1970. Très beau film avec Jacques Perrin et Julien Guiomard qui ressort donc en salle, ainsi que Femme Femme, Change pas de main et Corps à cœur, donc la semaine prochaine, pas plus tard que mercredi prochain. On va retrouver une dernière salve de Paul Vecchiali autour de la chanson et autour de la musique de film. Et puis pour commencer, on va écouter Dalida, qui devient une habituée d'ailleurs de cette émission, parce qu'elle était déjà présente la semaine dernière avec Parole, Parole, mais cette fois-ci c'est sur sa belle version d'Avec le temps de Léo Ferré. Vous comprendrez pourquoi en écoutant Paul Vecchiali juste après.
France Musique.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. Avec le temps,
Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça taille une de ses gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid.
Moi, je ne peux pas pincer cette chanson. C'est en tête, vraiment en tête, avec le temps de Ferré. Et ça va peut-être vous surprendre, chanté par Dalida. Parce que je trouve que, bon, c'est pas que Ferré chante mal ou chante faux, mais dans Dalida, il y a quelque chose qui est... Je sais pas comment elle est arrivée à supprimer toute dramaturgie, tout pathos. Elle chante ça avec une élégance et une grandeur. Bon, j'aime pas tout chez Dalida, mais c'est une chanteuse que j'aime énormément. Pour moi, elle a un peu remplacé Fréhel, qui était ma déesse. Enfin, je peux pas. Mes grands moments de cinéma, c'est dans Pépé le Moko, quand Fréhel chante vieille sur sa propre voix jeune, c'est quelque chose qui est bouleversant. Enfin, moi, la chanson m'a toujours habité. Et pendant la guerre, quand j'étais réfugié dans le Haut Var, je n'avais qu'un lien avec le monde, c'était la radio. Et c'était Radio Andorre. Et Radio Andorre me diffusait comme ça, sans arrêt, des chansons, des petites musiquettes et des trucs. Et ça me redonnait confiance en la vie. Par la suite, ben, la chanson... Alors, bon, Brel, évidemment, enfin, tous les camps. Aznavour, j'ai une passion pour Aznavour. Jean Ferrat, qui je trouve magnifique. Enfin, toute cette période-là, pour moi, Becco aussi. Becco, que j'ai... La première fois qu'il a chanté, c'est à l'école polytechnique, c'est moi qui l'ai invité. C'est à la fête de polytechnique, il est venu chanter et il a cassé le piano. Enfin. Et non, Becco, c'était formidable. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal en revanche. Alors, c'est pas, d'abord, je comprends pas ce qu'ils disent, un peu comme les comédiens. J'ai du mal, hein, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il dit, ou qu'est-ce qu'elle a dit. C'est un peu difficile aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens. Je sais pas, mais j'aime bien Renan Luce, par exemple. J'aime bien... Je suis pas fanatique tellement des autres. Si, Vanessa Paradis, ça se met... Vanessa Paradis, pour moi, c'est l'idéal féminin. Voilà. Mon rêve, ça serait de tourner avec elle. Pour moi, elle a la grâce, elle a l'autodérision, elle a absolument tout ce qu'il faut pour faire une grande star. Il n'y en a pas beaucoup en France. Après... J'en oublie sûrement parce que je suis fanatique de... La chanson pour moi est un élément indispensable pour ma vie.
Vous avez proposé à Vanessa Paradis quelque chose ou ça s'est jamais présenté?
J'ai proposé mais je pense pas que le scénario lui soit arrivé. J'avais fait une adaptation de La Nonne Sanglante de Charles Nodier. Elle devait jouer le double rôle, comme si vous connaissez la nouvelle. Enfin, je crois que c'était un joli scénario. Enfin, il fait partie des 60 projets non aboutis que j'ai dans ma cave. Et je regrette quoi. Et je voudrais bien. Je vais tout faire pour.
De rapport musique-cinéma, alors là plus globalement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez? Je sais que vous n'aimez pas tellement Kubrick, alors peut-être c'est aussi en rapport avec la musique, mais ça sera une note un peu discordante, parce qu'en général on entend plutôt l'inverse. Voilà, je voulais un peu savoir ce que vous en pensez de manière assez panoramique, on va dire.
Moi là, en musique, j'ai un dieu, c'est Nino Rota. Et j'ai deux haines, c'est Ennio Morricone et Adolphe Borchardt, qui a fait les musiques de Guitry, qui sont insupportables. Bon, Morricone, c'est un système, et moi, j'aime pas ça, j'ai les poils qui s'hérissent. Bon. Après, quoi? Bon, Michel Legrand, évidemment, enfin, qui a fait des choses formidables, et puis il y a eu Delru, il y a eu... Et puis, alors, maintenant, j'ai un petit tour de mémoire, mais c'est les musiques de Prévert Carnet, hein, ça c'est... Cosma, évidemment, ça je me rappelle, mais un autre, c'est pas Thierrier, c'est pas Maurice Thierrier. Il y a Thierrier, il y en a d'autres comme ça. Toute cette période-là, ça m'a aussi forgé pas mal de choses dans la tête. J'ai une passion pour pas mal de films de Duvivier, en particulier pour La tête d'un homme. Et bon, je trouve que là, il y a des musiques qui sont pas du tout. Vous savez, souvent, le musicien de film, c'est un médecin. On lui dit, regarde, là, j'ai un truc un peu faible, tu me fais un zimbamboum. C'est ça qui m'a toujours un peu... Je le sens, moi, dans les films, des fois. Je dis, tiens, il est là pour rehausser un peu cette séquence qui tombe en guide-guy. Non. Encore une fois, j'aime que le musicien mène son propre univers. C'est à moi, après, de, comme je fais un mixage, hein, de mélanger ça aux univers du décorateur, de l'opérateur, de tout ça. Ça doit faire un seul tout. Et si on ne l'a pas avant, on ne peut pas le faire, ça. C'est un incruste.
Bye.
la musique, enfin un extrait de la musique des Enfants du Paradis, co-signé par Joseph Cosma et Maurice Thirier, la musique de la pantomime pour clore son moment passé ce soir avec Paul Vecchiali, qu'on a entendu parler de musique de film et de chansons pour cette dernière séquence, de son dégoût pour Ennio Morricone et de son amour pour Dalida. Je vois Charles-Pierre Vallière qui fronce les sourcils en ma présence, qui n'était pas tout à fait d'accord avec ses propos. Et on a écouté Vanessa Paradis, donc Silver and Gold, une chanson de Lenny Kravitz sur son album de 1992, Vanessa Paradis. Et puis au début de cette séquence, justement, Avec le temps de Léo Ferré, donc dans la belle version de Dalida. Je partage assez le point de vue de Paul Vecchiali quant à moi, pas sur Ennio Morricone, mais sur Dalida. Mais enfin, après, moi je laisse les invités s'exprimer, c'est le principe de Cinéma Song. Paul Vecchiali, dont je rappelle son actualité, Nuit Blanche sur la jetée en salle. La semaine prochaine, en reprise, Change pas de main, L'étrangleur, Femme et Corps à cœur. À la fin de ce mois de février, aux éditions La Traverse, Les Russes du Diable, Change pas de main, La machine et c'est la vie en DVD. Et puis toujours disponible aux éditions de l'Œil, le livre de Mathieu Orléan, Paul Vecchiali, La Maison Cinéma. Et puis également l'Encyclopédie en deux volumes de Paul Vecchiali autour des cinéastes français des années 30 et leur œuvre. Une vision souvent très subjective, parfois injuste, mais enfin en tout cas très intéressante de Paul Vecchiali, donc sur ces cinéastes des années 30 dont il a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises dans cet entretien. Et bien maintenant, c'est l'heure de la chronique de Charles-Pierre Vallière, Essentiel BO. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique ?
Musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui Thierry, moi j'aime beaucoup Ennio Morricone.
Moi aussi, mais enfin après, voilà, chacun.
Sous toutes ses formes d'ailleurs.
C'est assez frais d'entendre quelqu'un qui dire du mal d'Ennio Morricone dans cette émission, parce que ça n'arrive pas souvent.
C'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, de nombreux fans des frères Wachowski, alors je prononce un peu à la polonaise, on dit aussi Wachowski, même Wachowski, alors au pluriel maintenant, mais attendez la sortie avec impatience depuis presque un an, du film Jupiter Ascending, alors Jupiter, le destin de l'univers en français, film de science-fiction donc à la fois grandiose et kitsch, et qui permet encore une fois, bien comme dans Matrix en fait, de constater les qualités de démiurge de ces deux réalisateurs toujours surprenants en fait. Et donc la bande originale de Jupiter Ascending a été composé par Michael Giacchino. Alors petit rappel, Michael Giacchino a fait les bandes originales de La Planète des Singes, Star Trek Into the Darkness, Mission Impossible, Ghost Protocol, ainsi que des films d'animation comme Là-haut et Ratatouille. C'est la deuxième fois en fait que Michael Giacchino travaille avec les frères Wachowskis, puisqu'il avait fait la bande originale de Speed Racer en 2008. Et avant toute chose, il faut bien admettre que la bande originale de Jupiter Ascending est une bande originale colossale. Deux orchestres, un dirigé par Robert Ziegler, l'autre par Giacchino lui-même, avec en plus le chœur des London Voices. Un double CD dans lequel il n'y a pas de musique préexistante. C'était le cas dans Matrix. Il y avait une partie musique préexistante et une partie donc musique composée pour le film. Mais là, que des morceaux dont les durées d'ailleurs sont souvent comprises entre 5 et 10 minutes, ce qui est assez rare en fait. Généralement, c'est plutôt l'inverse dans les bandes originales, Thierry. C'est vrai qu'on a plutôt de petits morceaux avec de temps en temps un morceau qui va être un peu plus long. Là, c'est tout à fait différent. Il y a des plages qui sont très très longues, ainsi qu'une sorte pour cette bande originale donc de type symphonique, une mini symphonie en 4 mouvements. Donc vraiment, c'est une bande originale à l'image du film, démesurée. Et en ce qui concerne justement plus particulièrement la composition de Giacchino, eh bien, il était très inspiré pour ses motifs mélodiques qu'il fait circuler assez adroitement justement dans des passages alors parfois martial, très rythmé, emphatique, mais aussi des moments tendres, lyriques, féeriques, aussi sombres et machiavéliques. C'est une bande originale qui est en fait à mi-chemin entre John Williams pour Star Wars et Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux. We'll be right back. Voilà un extrait de la bande originale du film Jupiter Ascending, composé par Michael Giacchino. Alors vraiment, chapeau hein, pour les percussions et les cuivres pour cette bande originale. Alors beaucoup de volubilité demandée au cuivre, surtout au corps hein, parfois. Vraiment une immense virtuosité qui est, que l'on entend pour ces musiciens du Hollywood Studio Symphony. C'est une bande originale qui a été composée avant le montage, ce qui explique aussi qu'il y ait justement ces plages si longues. Et il faut préciser quand même que c'est une musique qui est surtout descriptive hein, quand même sur l'ensemble du film. Et la bande originale, donc je vous le disais, est à mi-chemin entre celle de Williams pour Star Wars, celle de Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux. Le point un peu négatif, en fait, c'est justement l'utilisation des chœurs. Quand c'est une utilisation un peu avec des chœurs puissants façon Williams, eh bien là, Giacchino, c'est un petit peu raté à mon sens. Alors que quand les passages sont beaucoup plus sombres, eh bien c'est plus intéressant, c'est plus comme Howard Shore. Et là, c'est assez réussi. Et puis, il faut noter aussi l'influence d'un autre immense compositeur pour cette BO de Giacchino. Je vous laisse deviner, Thierry, de quel compositeur il s'agit. Alors peut-être que vous aurez reconnu chez vous l'influence de Michael Giacchino qui était évidemment celle de John Barry. On reconnaît quand même cette orchestration typique que l'entendait dans Out of Africa avec ses cordes et ses bois. Donc,
c'est pas ma période de Barry préférée, je dois dire.
Ah, mais en tout cas, elle est très très belle et d'autres aiment beaucoup, comme moi par exemple. Donc voilà, c'est une bande originale assez titanesque hein, que celle de Michael Giacchino pour Jupiter Ascending avec beaucoup d'influence. Et puis donc, elle est disponible depuis le 2 février chez Sony Classical. Et une bande originale à ne pas manquer.
Ben merci Charles-Pierre et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec ou sans les frères-sœurs Wachowski ou Warowski, on ne sait plus très bien comment les appeler.
Warowski, voilà, avec un S.
Absolument. Alors ce soir, Dorothée Gold m'avait aidé à préparer cette émission. J'étais en compagnie d'Annick Champagne qui était plutôt à la cabine. Victor Buton était au droit d'auteur. Ariane Herbé était devant la console à la technique. Et l'indispensable Bruno Rioux-Maillard, réalisait comme chaque semaine cette émission Cinéma-Song. La semaine prochaine, on parlera de Francesco Rosi. On rendra hommage à Francesco Rosi qui a disparu récemment. Le 9 janvier, je crois, ou le 10 janvier très exactement.